Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le 18e dimanche après la Pentecôte. Et l'évangile du jour nous propose un texte de l'évangéliste Saint Matthieu, chapitre 9. Notre Seigneur va guérir un paralytique. En ce temps-là, Jésus étant monté dans une barque, repassa le lac et vint dans sa ville. Donc, première question que se sont posées les pères de l'Église, de quelle ville parle l'auteur sacré? Eh bien, cette ville, la ville de notre Seigneur Jésus-Christ, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est la ville de Capharnaüm. Le Créateur de toutes choses, disent les pères, le Maître de l'univers, ayant résolu de se resserrer pour nous dans les limites étroites de la chair, donc par le mystère de l'incarnation, voulut avoir une patrie sur la terre et être citoyen d'une ville juive. Lui de qui vient toute paternité, toute parenté, voulut avoir ici-bas des parents, afin d'attirer à lui par l'amour ce que la crainte en avait éloigné. Et donc l'évangéliste appelle Capharnaüm la ville du Sauveur, parce qu'il y avait la ville où il était né, Bethléem, celle où s'étaient écoulées ses premières années, Nazareth, et la ville dont il fit ensuite son séjour ordinaire, c'est-à-dire Capharnaüm. De même que le Christ avait anobli Bethléem par sa naissance, Nazareth par son éducation, l'Égypte par sa fuite en Égypte, Jérusalem par sa passion, eh bien il va orner Capharnaüm par son habitation, ses prédications, et en faisant dans cette ville beaucoup de miracles. En fait, notre Seigneur va faire trois miracles. Voilà le texte. On lui présenta un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Ayez confiance, mon fils, vos péchés vous sont remis. » C'est le premier miracle. Et voici que quelques-uns des scribes dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, ayant vu leur pensée, dit, « Pourquoi pensez-vous le mal dans vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus aisé de dire, « Tes péchés, vos péchés se vous sont remis » ou de dire, « Levez-vous et marchez. » C'est le deuxième miracle, je vais expliquer. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, levez-vous, dit-il alors au paralytique, prenez votre lit et allez dans votre maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. C'est le troisième miracle. Et donc, trois miracles en un. Premier miracle, c'est dans le texte de Saint Matthieu, de pardonner les péchés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on va se confesser, et qu'on, avec le regret bien sûr de ses péchés, la ferme résolution de ne plus recommencer avec la grâce du bon Dieu, c'est en soi un miracle, le miracle de la confession. C'est le premier miracle. Deuxième miracle, Dieu montre qu'il lit dans les cœurs. Pourquoi pensez-vous le mal dans vos cœurs? Pourtant ils n'ont rien dit que notre Seigneur ait pu entendre dans son humanité. Et comme il est Dieu, il connaissait le secret des cœurs, il savait que ceux qui étaient là, les scribes, les pharisiens, commençaient à murmurer dans leur cœur. Donc c'est un deuxième miracle. Et le troisième miracle, évidemment, celui qui est le plus visible, c'est le miracle par lequel notre Seigneur Jésus-Christ guérit le corps de cette personne. Levez-vous et marchez. Levez-vous, prenez votre lit et allez dans votre maison. Et c'est la raison pour laquelle nous devons comprendre que la guérison de l'âme est bien plus importante que la guérison du corps et que dans bien des cas, notre Seigneur Jésus-Christ permet la maladie corporelle pour soigner l'âme et que beaucoup de conversions ne se seraient jamais passées si le bon Dieu n'avait pas amené la conversion par une maladie. Combien de personnes gravement malades ont pu sauver leur âme grâce à la maladie qui les a obligés à réfléchir davantage et à faire une bonne confession avant de mourir. Il vaut mieux aller au paradis par crainte que de rater la porte et rester à la porte et ne pas aller au paradis. Donc, les pères se sont demandé également que représentait ce paralytique. Eh bien, il y a plusieurs explications que donnent les pères, je vais vous les donner successivement. La personne du paralytique, disent-ils, c'est la figure de l'universalité des nations dont on demande la guérison, la conversion. Ce paralytique est présenté au médecin par le ministère des anges, parce qu'il est l'œuvre de Dieu et lui remet les péchés dont la loi ne pouvait le délivrer, parce que la foi seule justifie le pécheur. Il y avait avant une loi donc, qui interdisait à un médecin à Rome, dans la chrétienté à Rome, début de l'histoire de l'Église, où le médecin qui allait voir un malade, lorsqu'il se rendait compte qu'il y avait un véritable danger de mort pour ce malade, il n'avait pas le droit de retourner voir cette personne qui était en danger de mort avant que cette dernière n'ait accepté de se confesser. Et une fois qu'elle s'était confessée, à ce moment-là, elle pouvait y retourner. Pourquoi ? Parce que souvent, les maladies, c'est Saint Basile le Grand qui dit ça, les maladies sont des conséquences de nos péchés, sont la conséquence du péché qui nous est donnée par Dieu, tout simplement pour que nous puissions changer de vie avant qu'il soit trop tard. La paralysie de ce paralytique, donc la maladie de ce paralysie, représente toute maladie de l'âme. Mais surtout, disent les pères, surtout les maladies, cette maladie de la paralysie représente les tentations contre la pureté, toute la luxure, les péchés de luxure. Et surtout le fait, nous aide à comprendre que ces péchés de luxure entraînent dans l'âme une espèce d'indifférence, de paresse au sujet des choses spirituelles. C'est-à-dire que celui qui est enfermé dans les péchés d'impureté, dans les tentations d'impureté et impureté, va tomber dans une paresse spirituelle, une assédie spirituelle, et ne va plus se préoccuper des choses importantes. Il va se préoccuper des choses superficielles. Il n'arrivera plus à comprendre l'importance de sauver son âme. Une espèce de prostration de l'âme, une espèce de malice de l'âme qui va devenir toute faible et qui ne sera plus capable de se relever pour aller vers la vertu, vers le ciel, vers Dieu. Et lorsque l'homme paralytique et sous le poids de cette maladie, il doit être porté, justement, parce qu'il n'est plus capable de se porter lui-même, disent les pères de l'Église. Et donc les pasteurs, les prêtres, les prédicateurs, les confesseurs, tous doivent désirer son salut et l'aider à comprendre l'importance des choses spirituelles. Et donc, ils doivent l'amener au pied du Christ, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, le grand médecin, pour qu'il lui redonne le sens des choses importantes. Donc, la maladie va nous aider à comprendre l'importance des choses spirituelles, que l'âme est plus importante que le corps, que le salut de l'âme est plus important que le salut du corps. Et la paralysie représente la difficulté qu'une âme a à comprendre où sont les choses importantes, précisément parce qu'elle est embourbée dans les tentations d'impureté. Donc cette paresse spirituelle entraîne une paresse physique qui est représentée par la paralysie. Alors, qu'est-ce que va dire notre Seigneur Jésus-Christ ? Notre Seigneur va dire à ce paralytique, « Levez-vous. Levez-vous. » Alors, quelle est la signification de cette phrase ? Donc, puisque nous avons vu que ce paralytique représente l'image d'une âme qui vit sans force, au milieu de son corps, après avoir perdu toutes ses vertus, que l'on présente ainsi au Seigneur le docteur consommé pour être guéri, Donc, tout homme atteint de cette maladie doit intéresser à son état ceux qui peuvent demander à Dieu sa guérison et à l'aide de la doctrine céleste rendre la force à ses pas chancelants. Souffrons donc que les conseillers de notre âme l'élèvent vers les choses supérieures malgré la langueur ou la retient, la faiblesse de son corps mortel. Donc, se lever pour les pères de l'Église, c'est l'ordre que donne notre Seigneur Jésus-Christ, levez-vous et marchez. Levez-vous, dit-il alors au paralytique, prenez votre lit et allez dans votre maison. Eh bien, se lever, disent les pères, c'est arracher son âme précisément au désir de la chair, au désir de la luxure. La luxure nous maintient paralysés spirituellement parlant. Lorsque Dieu donne l'ordre de se lever, c'est le sacrement de pénitence qui agit, et à ce moment-là, on peut arracher son âme au désir de la chair. D'autres pères expliquent que ce lever de l'homme malade, qui va porter son lit ensuite sur ses épaules pour rentrer chez lui, représente le jugement de Dieu qui va arriver sur le pécheur, mais qui aide le pécheur à s'être repenti de ses péchés avant justement que ce jugement arrive. Mais il ne faut pas s'étonner, disent les pères, si après ce genre de conversion, il y a encore beaucoup de tentations. Il y a encore beaucoup de tentations et parce qu'il faut porter son lit, revenir à la maison. Et évidemment, le démon n'aime pas beaucoup ce genre de conversion. Un des pères qui donne l'exemple d'une conversion d'une égyptienne qui s'appelait Sainte Marie d'Égypte. Après sa conversion, si mes souvenirs sont exacts, c'était une prostituée convertie. Elle a senti pendant 17 ans après sa conversion l'aiguillon de la luxure. Parce que justement, pendant de longues années avant sa conversion, elle avait vécu précisément dans ce péché de luxure. Donc, se lever du malade représente le lever de la nuit du péché, du sommeil du péché. Si vous voulez, le péché est considéré comme un sommeil parce qu'il empêche l'âme d'agir normalement. L'âme est prisonnière, en quelque sorte du péché, et donc ne peut plus se lever et quitter le lit de ses habitudes licencieuses. Et donc se lever représente la grâce du bon Dieu qui va intervenir dans l'âme pour sortir l'âme de l'état malheureux dans lequel elle était. Et cela se fait justement par la confession. Donc Dieu a vu que ce paralytique était aussi un pécheur, pas simplement un malade dans son âme, mais surtout un malade dans son corps, mais surtout un malade dans son âme, et qu'il avait un regret de ses péchés, et donc il va lui pardonner. Et pour bien le montrer, il lui dit « Levez-vous, prenez votre lit, allez dans votre maison. » Donc, le fait que le malade va prendre son lit sur ses épaules après s'être levé représente la satisfaction qui est jointe à la confession. Il ne s'agit pas simplement de regretter ses péchés par la contrition, il ne s'agit pas simplement d'accuser ses péchés. Bon, dans ce cas-là précis qui nous occupe, il n'y a pas eu d'accusation parce que notre Seigneur Jésus-Christ connaissait tous les péchés de cet homme. Donc, on ne va pas lui demander directement d'accuser ses péchés devant tout le monde, évidemment. Mais ce fait de porter son lit représente justement la réparation qui est nécessaire. N'oubliez pas que trois choses sont nécessaires qui représentent la matière du sacrement de pénitence. La contrition, le regret de son péché avec le ferme propos de ne pas recommencer, l'accusation des péchés, mais aussi la réparation. Il y a donc à porter son lit parce que le port de ce lit, qui est lourd, c'est une chose difficile, mais qui va obliger la chair qui s'était rebellée contre l'âme, cette fois-ci à suivre le carcan de l'âme, parce que l'âme est la forme du corps. Et donc, ce lit porté, cela représente que l'âme qui était morte, cette fois-ci est ressuscitée par le péché, et va pouvoir porter le poids du corps pour le sortir complètement du péché. Alors, il y a d'autres détails qui sont donnés par les pères de l'Église, qui sont magnifiques. Donc, ils expliquent que par ce lit, donc, on doit entendre les voluptés sensuelles. Oui, on retrouve toujours la même idée. On doit entendre les voluptés sensuelles. On ordonne à celui qui a recouvré la santé de porter ce lit où il était couché pendant sa maladie. Pourquoi? Parce que tout homme qui trouve encore son plaisir dans le vice est comme étendu sans force au milieu des voluptés de la chair, mais lorsqu'il est guéri, il porte ce lit. Parce qu'il supporte alors les assauts de cette même chair au lieu de se reposer comme auparavant dans ses désirs coupables sur son lit. Donc enlever son lit, porter son lit, c'est élever son corps des désirs de la terre jusqu'aux aspirations de l'esprit. Ceci est important, il faut bien, bien comprendre cela. Ce port de ce lit est une preuve des merveilleux effets de la résurrection, car en emportant son lit, on nous apprend que notre corps sera un jour affranchi de toute infirmité. Donc c'est le symbole, si vous voulez, l'âme, le corps qui se lève de sa paralysie, qui porte le lit, représente la conversion et représente aussi un jour le jugement général à la fin des temps. Tout ça est représenté par ce port de ce lit. Donc, aller dans sa maison, dernier ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, aller dans votre maison, bien, aller dans sa maison, ça représente quoi? C'est retourner au paradis, ou la garde intérieure de soi-même, pour ne plus retomber dans le péché. Retourner dans votre maison, ça veut dire, attention maintenant, revenez chez vous, fermez les portes de votre âme pour ne plus être tenté de la même façon que vous l'étiez auparavant, et c'est-à-dire coupez-vous des occasions prochaines volontaires de péché. C'est ce que dit notre Seigneur, levez-vous de la, ça veut dire levez-vous de la mort et prenez votre lit, c'est-à-dire prenez votre corps qui est maintenant sanctifié par l'intermédiaire de l'âme. L'âme est sanctifiée par la confession, donc le corps représente si vous voulez, l'acceptation de l'âme de suivre maintenant la volonté divine. Et maintenant, préparez-vous à aller dans votre maison. La maison de l'âme, c'est quoi? La maison du corps, c'est quoi? La maison du corps et de l'âme d'un chrétien, c'est le paradis. C'est là où le bon Dieu nous attend, dans ce paradis éternel, pour l'âme d'abord, après le jugement particulier, après les purifications purgatoires dans bien des cas. Et donc, une fois que cette purification est faite, alors à ce moment-là, il va pouvoir aller au paradis. Et à la fin des temps, si l'âme est déjà au paradis, lorsqu'il y a la résurrection générale, donc le deuxième jugement, après la résurrection générale, pardon, il y aura le jugement général. Et là, à ce moment-là, si l'âme est au paradis, le corps va aller au paradis, et c'est ce qui est représenté par cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ. Levez-vous, dit-il au paralytique, prenez votre lit et allez dans votre maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Et les foules, voyant cela, furent remplies de crainte et glorifièrent Dieu qui avait donné un tel pouvoir aux hommes. Et comme il est beau de voir le sens donné par les pères de l'Église. On a du mal même à comprendre ce sens mystique, ce sens caché de la Bible. Je me rappelle quand j'étais au séminaire, on avait des discussions assez fortes entre séminaristes, et il y avait beaucoup de séminaristes qui ne voulaient pas entendre parler de ce sens mystique, et ils s'en moquaient un petit peu, parce qu'ils disaient que c'était de la poésie. Mais ce n'est pas du tout de la poésie, c'est le sens spirituel caché. Le bon Dieu parlait par des paraboles, et ces paraboles représentaient quelque chose de caché, et les paraboles aidaient l'auditeur à comprendre ce qui était caché. Eh bien, c'est pas étonnant que précisément la plupart de ces séminaristes qui étaient très opposés au sens mystique de la Bible, il y en avait pas mal, pas trop, mais il y en avait quand même quelques-uns, comme par hasard, sont ceux qui sont partis pour fonder la Fraternité Saint-Pierre et autres sociétés unies avec l'Église du Vatican II, justement parce qu'ils n'avaient pas compris cela. Alors il faut demander au bon Dieu cette grâce de savoir, nous aussi, puisque nous sommes paralysés par le péché nous paralyse, paralyse notre âme, qui n'est plus capable de parler par elle-même, d'aller par elle-même au pied du bon Dieu. Et donc, il faut se faire aider, en se faisant porter justement par les aides spirituelles que le bon Dieu nous a données, à commencer par notre ange gardien, se faire porter jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire se faire porter jusqu'au prêtre, pour que le prêtre puisse obtenir pour nous le pardon de nos péchés, et à ce moment-là, nous pourrons nous relever, nous pourrons porter notre lit de misère, et nous pourrons rentrer dans notre maison, et cette fois-ci, nous fermerons bien les portes de notre âme, et les fenêtres de notre âme, pour que le démon ne puisse plus revenir dans la maison, parce que c'est évident qu'il va se chercher et y revenir. Rappelez-vous l'avertissement de notre Seigneur, lorsqu'une âme quitte une maison, est obligée de quitter une maison, il va chercher à revenir dans la maison, et il trouve la maison toute ornée, toute décorée, de la grâce sanctifiante. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va repartir, chercher sept démons pires que lui, les sept péchés capitaux, et essayer de revenir dans la maison. Et à ce moment-là, s'il a le malheur de pouvoir y revenir, ça va être encore pire, la situation deviendra pire pour ce pauvre homme, cette pauvre âme. Donc demandons, mes bien chers frères, demandons à celle qui nous a été donnée par le bon Dieu pour nous porter vers notre Seigneur Jésus-Christ, et nous porter vers le prêtre, nous porter vers le confessionnal. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à faire ces choses-là. Parce qu'une âme est dans le péché, commence à se désespérer à cause de son péché. Quelle est la première chose que doit faire cette âme? Et la première chose que doit faire cette âme, c'est justement prier la très sainte Vierge Marie. Nous sommes au mois d'octobre, le mois du rosaire. Nous venons de célébrer la belle fête de Notre-Dame du Rosaire. Eh bien, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous donner cette force spirituelle pour que malgré notre paralysie, nous puissions nous précipiter au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, au pied de son ministre, le prêtre, et dire à ce ministre, pardonnez-moi Seigneur, pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché. Alors après avoir accusé nos péchés, le bon Dieu nous dira en utilisant le prêtre comme un instrument, allez en paix, prenez votre lit, portez-le et allez dans votre maison. Je vous absous de tous vos péchés, je vous pardonne de tous vos péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà ce que la très sainte Vierge Marie fait. La très sainte Vierge Marie, c'est celle justement qui amène le paralytique à notre Seigneur Jésus-Christ, pour que justement par lui, nous puissions aller au ciel. Donc demandons, pardon bien, ces grâces de conversion à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donnera ses grâces par l'intermédiaire de sa mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.